Info Club Sandwich.
Votre rendez-vous d'actualité locale, associative et culturelle.
Sur Radio Campus Amiens.
Salut tout le monde, vous êtes bien sur le 87.7 Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. J'accueille aujourd'hui Jean Bechtoile, qui est l'auteur et le metteur en scène de la pièce Rest and Watch, que vous pourrez découvrir à la Maison du Théâtre les 20 et 21 janvier prochains. Et j'accueille également Hélène Parrain de la Maison du Théâtre. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Daphné.
Nous allons tout d'abord aborder un peu votre parcours. Vous avez de nombreuses casquettes, metteur en scène, producteur, fondateur de la compagnie du 1er août, qui est productrice de la pièce que vous proposez. Et d'où vous vient ce lien avec le monde du théâtre ?
J'en ai fait, moi, quand j'étais petit, là, j'ai commencé très tôt, quand j'avais 7 ans. Puis après, j'ai eu des petites coupures, mais c'était vraiment... C'est quelque chose que j'ai trop fait pour arrêter de le faire, finalement. Et j'ai été comédien pendant longtemps, et puis il y a 4 ans ou 5 ans, enfin en 2016, j'ai vraiment arrêté. Et j'avais déjà écrit des trucs, donc je me suis mis à mettre en scène mes textes, puis ça a plutôt bien pris. Et donc voilà, Rest and Watch, c'est ma troisième création, enfin de manière institutionnelle en tout cas.
Après avoir suivi une formation en Angleterre à l'Actors Theatre School, vous avez fait un tour du monde en solitaire. Était-ce un moyen pour vous de vous rapprocher d'autres formes de théâtre ?
Alors, non, pas du tout. Vraiment pas du tout. Et qui plus est, en fait, ça, c'est une biographie qui a été écrite par une ex, qui avait le sens des formules. J'ai fait beaucoup de voyages, mais je n'ai pas fait un tour du monde exactement. Mais c'était en solitaire. Mais non, mais je tiens à le dire tout de même. Mais quoi qu'il en soit, non, ce n'était pas du tout pour ça. C'était une période où j'étais inscrit en fac de politique. Et j'étais plus dans une démarche... en tout cas, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était quelque chose de sociologique, quoi. Je lisais beaucoup Durkheim, je lisais beaucoup de trucs. Mais en tout cas, j'ai beaucoup regardé de théâtre en Angleterre, mais pendant mes études.
D'accord.
Mais en revanche, quand je voyageais, il m'est venu des réflexions, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter de voyager tant que je suis pas comédien. Ça s'est passé en voyage, mais véritablement, en tout cas, j'ai pas du tout. J'étais pas dans une observation du théâtre, c'était pour moi, quoi.
Ouais. Et vous avez créé depuis 2016 la compagnie du 1er août. Ouais. D'où vous est venue l'idée d'avoir votre propre compagnie ? Pourquoi était-ce important pour vous ?
Parce que vraiment, moi, ce qui m'intéresse... Donc j'ai commencé en tant que comédien. Et puis, quand je me suis mis à écrire et à avoir cette volonté de mettre en scène... effectivement, la démarche de travail, mais pas de compagnie, de troupe, de constituer autour une équipe autour d'un travail de création m'importait. Et puis ça, c'est vraiment la compagnie, elle a pris tout son sens à partir du moment où on s'est implanté en Bourgogne, où on a créé un festival, où il y a eu un travail d'implantation. Il y a une aspiration franchement politique dans tout ça, c'est-à-dire que moi, je vois le théâtre comme... je suis très animé en ce moment par... mais en tout cas, quand même, d'une idée d'un théâtre qui est... et le mot n'est pas joli, mais de comment on fait ça, comment on arrive à croiser à la fois son besoin de réalisation artistique et assez égoïste avec quelque chose qui répond à un besoin... social. Et donc, la notion d'utilité, elle existe pour moi. Comment on arrive à faire venir des gens au théâtre, et donc là c'est pas nécessairement absorber un spectacle comme quelque chose d'agréable, mais c'est aussi tout le théâtre ça revient à avoir une équipe autour d'un projet, c'est aussi avoir un public autour de ce théâtre là c'est-à-dire, et donc c'est très pertinent. Je suis pas en train de dire que ce que je dis est pertinent, mais en tout cas, c'est très important, et spécialement aujourd'hui, où pendant un ou deux ans, on s'est dit maintenant, on continue à faire du théâtre, on fait venir les pros, etc. Parce que, et donc là, ça réduit la notion de théâtre à juste un objet à vendre. En ce moment, c'est ça, quoi. C'est juste ça. Il n'y a plus personne dans les théâtres. En gros, hein, je schématise. Mais du coup, donc la notion de compagnie, pour moi, c'est ça aussi. Arriver à faire venir, avoir du public pour créer des événements. Et au fond, parce que moi, j'aime ça, écrire et mettre en scène. Bon, c'est souvent les événements... un peu clé des choses qu'on organise, mais finalement ce qui compte c'est réunir des gens, quoi. La compagnie, moi ça m'importe parce que c'est parce que ce qui m'intéresse vraiment, et finalement la notion de quand j'ai un peu parlé de sociologie et tout ça, là aujourd'hui en pleine crise de Covid, si tu veux, il y a des moments où je me dis bon, ça avance pas assez vite. Mais, et puis il y a des moments, c'est vraiment chiant parce qu'il y a des dissensions presque avec comment chacun gère ces peurs qui émanent de cette crise. Et moi, ça me passionne parce que ce qui m'intéresse là, c'est ces humains. Et là, je fais plus de management que de mise en scène, mais j'ai la sensation que ça va de pair, tu vois. Enfin, ça va de pair. C'est, en fin de compte, dès que l'équipe est constituée, ben, ça vit au plateau.
Parlons maintenant de votre spectacle West End Watch. C'est une pièce coproduite par la Maison du Théâtre. Vous avez en effet été en résidence là-bas en 2020. Pourquoi la Maison du Théâtre tout particulièrement ?
Ah bah alors là, c'est certainement une question à leur poser. Mais quoi qu'il en soit, on s'est rencontrés avec Jean-Louis Estany pendant une réunion de l'ONDA, qui est l'Office National de Diffusion Artistique. Et on s'est bien entendu, là pour le coup il avait encore rien vu de mon travail, et ensuite il est venu voir un spectacle qu'on a appelé du potentiel artistique insoupçonné de la femme enceinte sublimée, toutefois limitée par le fait que la femme enceinte accouche au bout de 9 mois. Voilà, la longueur du titre m'amusait, hein, et c'était un projet qu'on avait à partir du moment où Hélène, ma compagne, est tombée enceinte, et une autre comédienne avec laquelle je travaillais, et je travaille toujours d'ailleurs, est tombée enceinte. On s'est amusé à constituer un spectacle en 9 mois, alors que les productions, vraiment, en temps normal, pas en temps de Covid, ça prend bien 2 ans. En temps de Covid, c'est absurde. Et donc on a présenté ce spectacle prénatal où ces deux comédiennes étaient enceintes très fortement. Elles ont accouché 10 jours. C'était juste avant la pandémie. Et la dernière fois qu'on a joué, c'était le 10 mars. Puis ensuite, elles ont accouché respectivement le 17 et le 15 mars 2020. Et il a vu ça et je crois qu'il a été très fortement touché. Puis par ailleurs, il a vu mon précédent spectacle qui devait être accueilli, mais il l'a vu en captation, qui s'appelait Vie et mort d'un chien, qui a très bien marché. Et il devait être accueilli à la Maison du Théâtre, mais il y avait un problème de... Enfin bref, ça ne rentrait pas dans la salle tout à fait, quoi.
Comment ça se déroule pour la Maison du Théâtre quand une compagnie vient en résidence ? Qu'est-ce qui se passe exactement ?
Alors, une compagnie vient en résidence parce qu'on souhaite la soutenir. On souhaite la soutenir en amont, ce travail de création. Donc là, effectivement, le travail de Jean, c'était tout début. Et il y avait une vraie volonté d'être dans un accompagnement premier. Quand on est au début, c'est précieux. Enfin, on sait que c'est précieux à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est du temps de travail au plateau, c'est des moyens financiers, c'est des sorties de résidence qui permettent à d'autres professionnels, du public, de proximité du théâtre, de venir voir aussi des étapes de travail. J'en parlais de créer du lien. Là, ça rencontre également des objectifs du théâtre. On souhaite vraiment développer tout un travail de communauté autour du théâtre, que ce soit un temps de rencontre. Il y a des bords plateaux. Là, récemment, on a commencé
Pour créer vos pièces, vous vous inspirez toujours de votre propre expérience, c'est bien ça, et de votre propre vie. Pourquoi et qu'est-ce que cela apporte pour vous ?
Alors, c'est un petit peu... c'est vrai que dans les deux premières pièces, voire la troisième, si on parle de la performance dont j'ai parlé avant avec ces femmes enceintes, j'utilise effectivement mon expérience comme point de départ, du moins. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que d'abord c'est des... parce que moi, enfin en tout cas ça c'est mon sentiment à moi, que ce qui compte dans une création, mais bon, dans une... enfin moi j'ai quelque chose Enfin voilà, il y a une ambition artistique. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas en tant que spectateur, c'est la subjectivité du regard. Et donc, il y a deux choses en partant de mon expérience personnelle. C'est que d'abord, je suis sûr d'être absolument subjectif. Et en même temps, je suis sûr d'être absolument spécialiste. Mais un spécialiste absolument subjectif, tu vois. Et ça m'intéresse. C'est-à-dire que je regarde mon histoire avec, il me semble que c'est une plus-value, une valeur ajoutée. C'est-à-dire que parce que je suis le spectateur aux premières loges de mon intimité, il me semble que ça apporte un regard au spectateur qui est inédit, mais pas inédit. Je ne suis pas en train de dire que ce que je fais n'a jamais été fait. Ce que je veux dire, c'est que si je raconte mon histoire à moi, j'ai la place d'une petite souris que les autres n'ont pas. C'est-à-dire que si d'autres s'amusaient à regarder mon histoire, ils le feraient aussi de manière inédite. Mais enfin, voilà, chaque subjectivité me semble très intéressante. Mais par contre, je m'inspire de mon histoire personnelle, mais en revanche, c'est toujours un point de départ. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à trouver dans mon histoire ce qui ensuite devient universel. Si je parle de ma famille, c'est pour parler de la famille. Mais il me semble que ce point de vue très subjectif, je ne sais plus qui disait, quand on s'adresse à un seul spectateur, on s'adresse à la salle entière. Peut-être que c'était Ariane Mouchkine, j'en sais rien. Je sais plus, mais il me semble peut-être ça. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que en étant très très rigoureux dans ma manière de partager l'intime, je crois que je peux parler à tout le monde, parce que c'est avec en tout cas cette ambition d'une sincérité profonde. Mais sincérité, mais pas on n'est pas dans un truc, c'est pas la Le vrai, c'est pas la vérité, c'est ma vérité à moi, mais en tout cas j'ai la sensation que comme ça, ça peut parler à tout le monde. Alors sans doute très mal, mais...
Est-ce que vous pouvez nous faire un petit teaser de cette pièce ?
Donc c'est deux couples qui... donc ça se passe entre 2020 et 2055. Et donc c'est deux couples d'amis... et donc il y a deux femmes et deux hommes, et ces deux femmes sont enceintes, très fortement enceintes, et puis elles décident de faire, ils décident tous ensemble de faire un spectacle juste avant la naissance de ces enfants. Et lors de ce petit spectacle, il y a des invités, il y a une distribution de cadeaux, et dans cette distribution de cadeaux, à l'instar de La Belle au Bois Dormant, il y a un mage qui apporte une petite malédiction dans tout ça. Et puis ensuite, il y a une ellipse. Il y a un des protagonistes qui meurt. Et donc, il reste deux femmes et un homme. Et c'est exactement... C'est en 2020, c'est en mars 2020. Les enfants naissent le 17 mars et le 15 mars. Donc, c'est juste avant le Covid. Et donc, ils se retrouvent tous les trois. Ils ont cette... Oula, c'est pas du tout un teaser finalement, là c'est trop long, mais je suis désolé. Mais donc ils se retrouvent, avec le Covid, ils décident de tout arrêter, d'arrêter d'écrire, d'arrêter de faire des spectacles et de vivre reclus dans une maison en Bourgogne. Et donc les enfants sont élevés comme ça, ils sont conditionnés à ne rien faire, ils ont cette espèce de truc, rest and watch, repose-toi et regarde. Et comme ça le monde va mieux, mais c'est sans compter le reste du monde qui va de mal en pis. Et donc les enfants sont conditionnés à ne rien faire, ils évoluent dans ce système là avec toutes les contradictions que ça amène, parce que eux ils grandissent, ils ont 18-19 ans, ils ont des désirs, ils ont envie de rencontrer des gens, de créer à leur tour des spectacles, ils ont des désirs sexuels, et on arrive dans une espèce de huis clos où il y a eu pas mal de non-dits, notamment quant à la paternité des enfants, dans un truc très très névrosé, et voilà.
C'est une pièce qui explore donc de nombreuses questions, notamment comment appréhender un monde en mutation, comment en rire. Mais j'imagine qu'on va ressentir tout ça au travers de la musique et de la mise en scène. Donc les musiques sont notamment signées Guillaume Bosson. Pouvez-vous revenir un peu sur cette association ?
De musique et de... Alors en fait, c'est parce que moi j'ai pour objectif de saisir des moments donc très réalistes. Et donc pour que ce réalisme-là soit théâtral, de mon point de vue, mais c'est aussi parce que moi je suis très j'aime beaucoup Shakespeare notamment, où il y a cette espèce de croisement entre des choses très réalistes et tout d'un coup une théâtralité très visible où on voit les ficelles avec des cœurs, etc. Donc bref, pour arriver à rendre tout ça très très léger, c'est-à-dire ce réalisme avec toutes ces névroses-là, effectivement, je m'amuse à insérer des chansons pour créer une certaine distance. Et voilà, cette distance, effectivement, on pense à Brecht, à Kurt Weill, du coup, le compositeur avec lequel il travaillait. Mais aussi, je me suis inspiré notamment du fou dans Le Roi Lear de Shakespeare. Donc, il y a toutes ces pastilles-là, il y a aussi beaucoup de vidéos, sont ici pour déployer la machine théâtrale. Pour s'amuser avec ces artifices-là, sans les cacher, quoi.
Et de quelle manière allez-vous retranscrire ces questionnements au travers de la mise en scène ? Va-t-on voir un monde apocalyptique, un monde désert ? Comment ça se passe ?
Alors moi, j'ai à cœur vraiment de solliciter le spectateur. Alors c'est assez... et de ne pas lui imposer d'image. Donc voilà, hein, ça c'est une recherche peut-être... Donc, avec Caroline Frachet, qui est la scénographe, parce que ça se passe essentiellement toute la première partie dans un jardin, je lui ai donné comme proposition qu'il n'y ait absolument rien qui représente la nature de manière réaliste. Donc, tu me dis apocalyptique, oui, effectivement, il y a quelque chose d'un monde qui est à bout de souffle, mais il n'y a pas... Donc, en tout cas, visuellement, il y a du bleu, beaucoup de bleu, de manière à ce que ce soit pas... En tout cas, que le spectateur soit pas là, ah oui, on est sur un truc où tout d'un coup, il y a du sable ou de la poussière. Non, il y a quelque chose d'assez abstrait. Et il y a un fantôme qui est récurrent. Ce que j'ai dit dans le teaser, c'est qu'il y a un des personnages qui meurt. Et ce fantôme, en revanche, il est filmé uniquement dans la nature, en l'occurrence dans la nature... dans laquelle j'habite en Bourgogne. Donc il y a ce contraste là, si tu veux, très visible entre un monde quand même relativement abstrait où c'est pas appuyé, mais même le son tout de même est réaliste. Mais donc on est en immersion dans un monde qu'on reconnaît pas tout à fait. On reconnaît juste le son d'une nature qui est un peu sèche tout de même. Et des vidéos de ce fantôme-là où pour le coup la nature est très verte, très familière.
Et est-ce que vous avez d'autres projets en cours une fois que
ouais.
Pour fin 2022 ou un peu plus tard?
Donc nous on organise un festival. Donc ça c'est l'autre. Donc ça c'est récurrent si tu veux. Donc, une fois qu'on a fini ça, bon, on reprend ce spectacle-là, La Tempête, à Paris, au Théâtre de la Tempête, puis au Théâtre d'Auxerre en mai. Donc, en mars, en mai, on rejoue Rest and Watch. Et ensuite, là, c'est notre activité de programmateur, enfin, toute proportion gardée, tout, enfin... Et c'est pour nous un vrai geste artistique, quoi. D'assembler ces artistes-là, de les réunir et puis voilà, ça c'est fin, c'est du 28 au 31 juillet dans Lyon, à Sainte-Colombe-sur-Loing. Il y a le festival, la quatrième édition du festival La Nuit la plus chaude, où il y aura notamment Lara Marcoux et Marc Vitecoq qui créeront un spectacle, je ne sais pas ce que ce sera. Moi je créerai une petite forme et je ne sais pas ce que ce sera. Et en revanche, je suis en train d'écrire autre chose, là, ouais. Avec moins de comédiens.
Et quels sont les futurs projets de la Maison du Théâtre ? Quelle est un peu la programmation de ce début d'année ?
Alors, on poursuivra avec le dernier voyage d'Aquarius, de l'Aquarius, hein, ce bateau qui récupérait des migrants méditerranéens. On est en plus en théâtre documentaire sur le 27 janvier. Après, on aura toute une série de spectacles jeunes publics avec Mila Baleva, qu'on connaît assez bien, qui est compagnon du Tas de Sable chez Panse Verte, à côté d'Amiens, qui interprète De l'autre côté du citron, On est en théâtre, théâtre d'objets. Une histoire pop, c'est adapté de Howard Zinn, grand historien américain, qui a écrit l'histoire des États-Unis, mais du point de vue des luttes et des opprimés. Voilà, on continuera, ça nous amène tranquillement en mars, et puis d'ici là, on se reverra. Concernant le spectacle Rest and Watch, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux. On a posté aussi des photos que Jean et la compagnie nous ont envoyées. On voit bien cette dimension très verte, très lumineuse des répétitions à Auxerre, en Bourgogne, enfin, ou en tout cas en Bourgogne, dans la nature. Ça donne voilà, aussi une coloration. Nous, on avait accueilli d'autres temps de travail et une étape. Il y a un vrai plaisir du jeu sur scène, des comédiens qui sont voilà, dans un jeu très ludique. Quoi. Il y a ouais. quelque chose... voilà. Et, voilà. Et alors après, sur les photos et sur le thème, il y a une petite ambiance. J'ai trouvé les valseuses. Je ne sais pas si ça a été une inspiration. Voilà.
Mais en tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à l'émission. Je vous rappelle que la pièce Rest and Watch de Jean Bechtoil est jouée les 20 et 21 janvier à 19h30 à la Maison du Théâtre. Tous les renseignements sont trouvables sur le site de la Maison du Théâtre. À plus.